Bonjour.
C'est nous, c'est Gaming et Politique.
Oui.
Salut.
On est de retour.
Salut.
On est une émission où on parle du jeu vidéo par un prisme engagé. Et d'ailleurs, on est en train de préparer un glossaire, une sorte de dictionnaire avec plein de définitions pour les non-initiés qui, comme ça, entendraient des mots un peu bizarres qu'on ne comprend pas.
Et puis aussi parce qu'on du monde du jeu vidéo qui sont parfois un peu complexes, ouais.
Et puis que des fois, on prend pas le temps d'expliquer. Vous pouvez rejoindre ce glossaire qui sera dans les résumés des plateformes où les épisodes sont rediffusés. Donc il y a Spectre Media, il y a quoi d'autre ? Il y a Spotify et il y a Deezer.
Ouais.
Voilà, donc nous c'est Gaming et Politique.
Here we go again.
Gaming.
Bandicoot Power.
Et Politique.
Do a barrel roll.
Welcome to the jungle.
Gaming et Politique.
Du coup, il y a qui autour de la table ? À chaque fois, je suis désolée, à chaque fois je pars avant la fin du générique, c'est insupportable.
Mais surtout, à chaque fois, c'est Kratos qui te coupe la parole.
Oui,
c'est...
je pense que c'est Kratos qui te coupe la parole.
Oui, c'est ça.
C'est plus ça qui se passe.
Avec nous, autour de la table, bon, y a moi déjà, je me présente en premier, car la malpolitesse, moi c'est Alex du coup.
Moi c'est Adri.
Voilà.
Moi c'est Myriam.
Et moi c'est Clément.
Merci. Du coup, il va y avoir deux chroniques, moi je vais en faire une. Et Adri aussi, du coup, t'en as une, c'est une interview à diffuser, quoi, c'est ça ?
C'est ça, j'ai fait une interview avec une membre du STJV, qui est le syndicat des travailleuses des jeux vidéo. Mais d'abord, il y a une chronique, en effet, et je crois que c'est toi, Alex, qui l'a préparée.
Oui, c'est moi. Je l'ai préparée un peu en rapidité, j'espère que ça sera compréhensible. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, ma chronique va traiter du jeu Clair Obscur Expédition 33, qui est sorti il y a peu de temps. Qui est sorti il y a un ou deux mois. Ma chronique, j'aurais aimé l'appeler Clair Obscur Expédition 33 ou le plus gros chèque aux grosses boîtes de l'industrie de l'histoire du jeu vidéo.
Pourquoi un gros chèque ?
Ah ben, je vais dérouler, bien sûr, c'est le plus gros chèque, mais c'est pour plein de raisons différentes. Parce qu'il marche extrêmement bien, alors que petite boîte de production. Enfin bon, je vais définir tout ça, mais d'abord, déjà, je voulais introduire le pitch du jeu parce que je l'aime très fort et que du coup, j'ai envie aussi qu'il donne envie d'y jouer. Et le pitch est super. Donc ça commence dans la ville de Lumière, qui est en fait Paris pendant la Belle Époque, mais version post-apocalyptique, un peu steampunk français. C'est très français. D'ailleurs, Cocorico, parce que c'est un jeu français, et tout est très 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 français dans le jeu. Les persos s'appellent Gustave, Maël, et t'as même François, et t'as des skins, donc des vêtements genre marinière, baguette dans le dos et nappe à carreaux rouge et blanc. Enfin bref, il y a plein de références françaises bien clichés, mais c'est assez drôle.
On peut se battre aussi avec une baguette, non ?
Oui, c'est vrai.
C'est un accessoire, c'est une arme, quoi.
Ouais, oui, ouais, ouais. C'est un peu drôle. Donc le pitch, c'est... donc il y a 67 ans avant le moment où tu rejoins les personnages, la ville de Lumière a été séparée du continent par une catastrophe qu'on appelle la fracture. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en gros, la ville s'est retrouvée au milieu de l'océan sans contact avec le reste du monde. Et donc, chaque année depuis la fracture, sur un gigantesque monolithe qu'on voit de l'autre côté de l'océan, donc c'est très visuel, c'est très beau, hein, c'est un truc, un grand monolithe de l'autre côté de l'océan, tu vois une peintresse géante qui marque chaque année un décompte de 100 à 0. Donc elle a commencé par 100 et il y a un décompte 99, 98. Et toutes les personnes qui sont plus âgées que le nombre écrit par l'impatresse sont gommées. Donc il meurt en fait en s'effaçant en pétales de fleurs, en gros. C'est un peu visuel, c'est assez joli, poétique. Et on comprend pas pourquoi, et voilà. Et donc pour briser la malédiction, tous les habitants de Lumière, chaque année, ils envoient une exposition qui est chargée d'arrêter la peintresse, donc de la combat, enfin on sait pas trop en fait qui sait quoi, comment faire, mais en tout cas ils sont chargés d'aller la voir, d'aller l'arrêter pour faire qu'elle arrête cette espèce de... Bah de génocide finalement, et donc ils vont traverser l'océan pour rejoindre le continent, etc. Et donc le jeu, il commence avec un gommage, donc un moment où justement il y a un nouveau chiffre qui arrive, et on en est au chiffre 33, et donc toutes les personnes de plus de 33 ans meurent, et juste après il y a l'expédition 33 qui part en bateau pour aller voir la peintresse, quoi. En gros c'est ça, le pitch.
Et aucune autre expédition n'est revenue sur ces autres années depuis la centième année.
Alors, quelques membres de l'expédition zéro, mais c'est tout. Enfin, il y a pas de traces. Non, il y a personne qui est revenu. Tout le monde meurt. On comprend pas où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a aucun indice. Du coup, les habitants de Lumière, ils sont juste en mode voilà.
On se doute qu'ils n'ont pas réussi, puisqu'en fait le décompte continue, mais néanmoins, donc ils continuent d'envoyer des expéditions avec dans l'idée même que même s'ils ne vont pas vaincre la peintresse, ils vont de toute façon paver la voie pour les expéditions suivantes jusqu'à ce que enfin l'une d'entre elles réussisse.
C'est ça. Et vu qu'on en est à 33, ben en fait on commence à être de plus en plus jeune. Ça pose plein de questions déjà dès le début du jeu, des questions philosophiques et éthiques assez tôt, qui sont intéressantes, genre par exemple sur la question d'avoir des enfants. Est-ce que les habitants de Lumière doivent avoir des enfants? Soit tu les condamnes à mourir très jeune et être orphelin très très tôt, soit en même temps tu condamnes l'humanité parce que ça fait que ben tu crées pas d'espoir en fait, si tu fais pas d'enfants en fait, tu vas pas renouveler les générations. Enfin voilà. Du coup, c'est un peu une question déjà dès le début. T'es en mode ah ouais, c'est horrible, ce machin. Ouais, ça pose des grosses questions. Bon, le jeu traite d'énormément de sujets philosophiques et éthiques qui sont passionnants, mais je ne peux pas parler d'autres sujets que le jeu aborde parce que ça serait du spoil. Donc je ne peux rien dire de plus. Mais j'aimerais faire une chronique ou un épisode spécial spoil clair-obscur pour pouvoir en parler parce que je j'arrête pas d'y penser personnellement. En tout cas, s'il y a un jeu qu'il ne faut pas spoiler, je trouve que c'est bien celui-là. Donc, je me tais. Nous, Myriam et moi, on est les seuls ici
à l'avoir terminé. Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, on se tait, Myriam.
Non, on se tait. On va se retenir de divulguer quoi que ce soit, parce qu'effectivement, il y a un côté très, j'ai envie de dire, Final Fantasy, autre que dans les thématiques, où en fait, l'histoire est très large. C'est-à-dire, ça avance, et puis en fait, on est dans un livre qui part un peu dans tous les sens, et pourtant, c'est cohérent. Voilà.
C'est ça.
Tout ce que je me permettrais d'ajouter.
Moi, personnellement, ce jeu, il est devenu tout simplement mon jeu préféré à égalité avec Zelda Tears of the Kingdom. Donc, quand même un
rien
jeu...
que ça.
Ouais, mais pour dire à quel point, moi, en tout cas, c'est personnel, hein, voilà. Mais à quel point c'est un jeu qui me parle et que j'ai aimé vraiment très, très fort. Je peux que recommander d'y jouer. L'histoire est sublime, la musique est sublime, le gameplay est génial, la direction artistique est magnifique, je trouve que c'est incroyable.
Combien voilà. Il coûte?
Comment?
Combien il coûte?
Justement, gros argument.
Ah ouais.
45€.
Ah ouais.
Alors que, alors ça peut paraître beaucoup pour des personnes qui connaissent pas le monde du jeu vidéo, c'est rien. Pour un jeu, la plupart des AAA, ils sortent à 80€.
Et aujourd'hui, Nintendo a mis un nouveau standard, il me semble, avec sa Switch 2.
Oui. La Switch 2 qui est sortie il y a pas longtemps, justement, qui est pour le coup... une grosse arnaque.
Les jeux sont à
90.
90€.
90€, ce qui est vraiment fou.
Toujours plus. Ouais.
Toujours
c'est
plus.
Pas comme si Baldur's Gate 3 ou maintenant Expedition 33 étaient des jeux qui étaient en train de cartonner à mort alors qu'ils sont peu chers, qu'il n'y a pas de DLC en plus à acheter.
Exactement.
Enfin, c'est-à-dire, t'achètes le jeu t'appartient et il n'y a pas plus à débourser et tu passes des heures dessus.
Non, mais c'est justement ça. Là, pour ma chronique, elle va traiter justement de cette histoire de à quel point, en fait, pour moi, ce genre de jeu, ils sont en train de changer l'industrie du jeu vidéo et dans un sens positif, à mon sens, même s'il y a sûrement des choses négatives. En fait, là, vraiment, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un gros chèque parce que ça ne peut que faire changer les choses, en fait. C'est pas possible. Juste pour revenir un peu sur le gameplay très basique, pour dire aussi, ils ont pris des risques parce que c'est du tour par tour. Moi, j'ai beaucoup de mal personnellement d'habitude avec le tour par tour. Donc, c'est un peu le tour par tour, c'est je joue, l'adversaire joue, mon autre personnage joue. Voilà, c'est un peu lent, c'est un peu à la Pokémon à l'ancienne ou à la Final Fantasy à l'ancienne.
Il y a des points d'action qu'on peut débourser. Une fois qu'on a la limite, on peut plus rien faire.
C'est ça, avec des points d'action, etc. Donc, moi, c'est des trucs qui très rapidement me saoulent. Je joue très peu en tour par tour. Mais. En fait, là, c'est très bien fait parce que ça joue sur le rythme et la musique. Donc, t'as des esquives et des parades à faire en rythme qui, du coup, ça fait que c'est pas chiant, en fait. Tu te fais pas chier. Mmh. Parce que finalement, t'es tout le temps un peu dedans. Ça te tient, en fait, clairement. Chaque perso a son gameplay particulier. Donc, c'est pas redondant du tout, le tour par tour. Pour le coup, à chaque fois, ça donne des éléments nouveaux. Et à chaque fois, c'est intéressant. C'est pas laborieux. Et il y a un système, je vais pas rentrer dans les détails, mais de Lumina et de Picto, où en gros, t'as un système pour améliorer tes joueurs et tes joueuses qui est vraiment ingénieux et qui est vraiment pas compliqué à comprendre non plus, qui te Moi, je déteste quand tu dois relire 50 pages de trucs, c'est galère à comprendre. Mmh. Là, c'est assez facile d'accès et c'est intéressant et c'est hyper aussi intuitif, je trouve. T'as pas à étudier 50 heures le système de combat avant de pouvoir commencer à jouer. Je trouve que c'est, voilà, c'est accessible à des personnes.
Le jeu nous emmène effectivement dans son gameplay assez facilement pour mieux comprendre comment utiliser les Lumina, le système. Moi, j'ai mis un moment avant de comprendre qu'on pouvait les acheter, tu sais.
Ah oui.
Bon. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y a un système en plus qui fait que voilà, tu mets des Lumina à tes armes, mais après, tu peux aussi les acheter pour qu'ils soient toujours un peu passivement là.
Ouais.
Et du coup, tu peux remplacer ça par des Lumina qui s'activent au fur et à mesure du combat.
Et c'est assez simple à comprendre. C'est un système que je trouve vachement ingénieux et assez génial plutôt. Enfin, je trouvais ça assez chouette. Et tu ne te perds pas dans 1000 trucs à capter. Moi, c'est ça qui me saoule le plus. Vraiment, de devoir étudier le mode d'emploi d'un jeu avant de commencer. Enfin, moi, j'ai zéro patience. Et je trouve que du coup, le gameplay est accessible à des personnes qui jouent peu, des joueurs occasionnels, pas à des personnes qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo non plus. Je dirais pas ça, mais je dirais à des joueurs occasionnels, c'est vraiment accessible. Et en même temps, ça plaît aussi à des hardcore gamers. Enfin, parce qu'il y a la possibilité aussi de rendre le jeu très complexe, il y a la possibilité d'aller beaucoup plus loin, de vraiment faire des combinaisons très poussées, de jouer sur des trucs rythmiques très précis. Enfin bref, voilà. Donc vraiment, ça peut plaire à des personnes qui jouent peu et des gens qui jouent beaucoup. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir des professionnels des hardcore gamer performer sur le jeu, genre des speedruns, ça va être magnifique à voir.
J'en ai vu, enfin, j'ai pas vu des speedruns, mais j'ai vu des personnes qui maîtrisent à la fin. C'est très 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 beau quand ils maîtrisent le truc de la parade. C'est
parade,
plus que de l'esquive, parce que la parade te permet de redonner un coup une fois que t'as bien réussi, on va dire, la chorégraphie du combat où t'as paré en fait ce que l'ennemi te balance dessus, quoi. Et là, c'est vraiment magnifique. Et par rapport à ce que tu dis sur le gameplay aussi, c'est que moi je suis un peu plus critique sur l'histoire, l'univers, moi je suis moins rentrée dedans, mais j'admets que ce qui m'a poussée à continuer le jeu et à le finir, c'est le jeu, c'est-à-dire c'est les moments de combat où en fait j'ai capté qu'en fait j'étais à fond, genre j'adorais combattre, j'allais chercher tous les endroits où je pouvais aller combattre, parce que pour le coup je m'amusais vraiment, j'adorais retravailler mes personnages, là ce que je fais très rarement, normalement moi un personnage je le booste on va dire avec ses capacités, puis après j'y touche plus trop, tu vois, j'ai un peu la flemme. Là, pour le coup, je m'amusais à changer des trucs, à me dire « Ah ouais, mais là, si je faisais comme ça, et si je faisais que dans l'ordre, ils combattent dans cet ordre-là, ils pourraient se compléter entre eux, parce que t'as quatre personnages qui jouent... »
Ouais, c'est un casse-tête un peu.
C'est ça.
Tu crées un espèce de... Tu fais des combinaisons, enfin ouais, c'est hyper intéressant.
Voilà, je voulais juste rebondir sur ce truc du gameplay, puisque bah, c'est ce qui m'a fait vraiment rester dans le jeu et qui m'a vraiment plu, quoi.
Ouais, ne critique pas trop l'histoire non plus.
Non.
je rigole.
Attends, mais t'en fais pas, on va se faire un petit hors-sujet, hors-série, et puis voilà, on sera contents.
Et donc, pourquoi le plus gros chef de l'histoire du... J'exagère peut-être, mais...
On veut savoir, oui.
Voilà, pourquoi. Alors déjà, Clair Obscur, n'est pas un triple A, mais un double A. Déjà, définition. Les triple A, bon alors je suis pas expert en en définition de cet ordre-là, de l'industrie du jeu vidéo, mais en gros les triple A c'est des jeux qui sont faits par des grosses boîtes de production avec des équipes de plusieurs centaines, voire milliers de personnes sur des années, genre 8, 10 ans, avec des moyens gigantesques. Et c'est des jeux qui vont se vendre très cher. Voilà, c'est bon. En gros, Ubisoft avec les Assassin's Creed,
Call of Duty,
GTA. Voilà, c'est des gros jeux
God
énormes.
God of War, du coup.
God of War, voilà. Bah, c'est en gros les jeux les plus vendus. C'est comme les blockbusters du cinéma. Ça, c'est les triple A. Ensuite, en dessous, t'as les double A, où c'est un budget conséquent, mais une équipe, on va dire, d'une dizaine, vingtaine ou trentaine de personnes. Ou qui vont avoir un gros budget avec des gros éditeurs quand même, etc. Mais où le budget est moindre et où du coup, il y a plus de fluidité, de flexibilité. Et la créativité est plus accessible, on va dire. Il y a plus d'ouverture à la créativité des développeurs ou des scénaristes, etc. Et tu as ensuite les jeux indés, qui sont vraiment des petits jeux plutôt... un jeu indé quoi, enfin ça parle de soi. Et donc les double A, clair obscur, c'est entre un jeu indé et un triple A, donc c'est un double A, on appelle ça. Aujourd'hui, les triple A, comment ça fonctionne? Donc ils fonctionnent avec des gros fonds, etc. Il y a une industrie gigantesque du jeu vidéo. Et ils ont un peu aujourd'hui, à force avec les années, créé une espèce de recette du jeu avec des ingrédients qui sont un peu incontournables. Les ingrédients qu'ils pensent, eux, hein, les créateurs du jeu, de AAA, hein, incontournables, ça va être que le jeu soit en monde ouvert, par exemple. Donc qu'il y ait une grande, immense carte. Plus la carte est grande, mieux c'est, selon eux. À découvrir, que tu dois explorer, etc. Que tu aies un menu de quête avec plein de quêtes secondaires dans lesquelles tu te perds, voire des quêtes tertiaires. Voilà, enfin vraiment plein de quêtes secondaires et tertiaires. Un système de combat avec une partie infiltration, une partie bourrin, une partie, voilà, enfin, avec plusieurs systèmes de combat, différentes armes, différentes, voilà, mais que ça soit pas de tour par tour. Globalement, ils font très très peu de tour par tour, les triple A, enfin, c'est plus du tout, c'est plutôt considéré comme une grosse prise de risque, le tour par tour aujourd'hui. Sauf pour Baldur's Gate, du coup, bah, Éclair Obscur,
qui avait pris un risque en maintenant le tour par tour, effectivement, d'avoir gardé ça des premiers jeux et de l'avoir maintenu. Au contraire, par exemple, des Fallout qui avait ce système-là, mais qui ne l'avait pas maintenu au moment du passage en 2008, je crois, de Fallout 3.
Pour Fallout 3, oui.
Voilà, en FPS.
Et ce que j'allais dire sur ces modes de jeu, je voulais rebondir, c'est que quand même, Ubisoft, c'est un peu qui ont lancé ça, j'ai l'impression, avec Far Cry 3 à peu près, on est sur cette époque-là, en 2011 peut-être.
2011, 2012,
ouais. C'est ça. Hein. Et depuis, ça n'a en fait pas bougé. Enfin, les franchises ont vraiment pris ce modèle. Et depuis, donc, franchement,
plus de 10 ans. Ouais, presque 15.
On se prend les mêmes jeux dans le même moule depuis cette époque-là de ces franchises-là, quoi.
Et aussi avec un truc, moi, qui m'insupporte, c'est la minimap. Oui. La minimap qui prend. Alors, une minimap, du coup, c'est sur pendant que tu joues, c'est un petit endroit sur ton écran où va y avoir une petite carte qui va t'aider, qui va t'indiquer où sont toutes les choses. Ce qui est super pour aider, en fait. Mais du coup, ça aide généralement beaucoup trop. T'as même des systèmes avec des petits guides d'orientation qui se mettent sur le sol. Enfin, des trucs où, en fait, tu n'as plus à regarder le décor, tu n'as plus à essayer de t'orienter par toi-même. Tu ne vas que regarder la minimap ou l'orientation. Voilà. Enfin, tu vas que te faire aider par le jeu. Voilà. Et pour moi, ça gâche beaucoup aussi. Ouais, parce que tu ne regardes pas beaucoup le décor. Tu étais un peu trop. C'est trop facile, c'est trop simple à être guidé. Voilà.
Tu suis un chemin tracé, alors que c'est censé être un monde ouvert.
C'est ça.
Où on peut explorer, on va suivre.
Exactement.
Par exemple, ça, c'est un des trucs que je trouvais hyper frustrant dans God of War, c'est que il a la beauté d'un jeu monde ouvert. Était dans une espèce de couloir. Alors, il n'y a pas de minimap, mais pour le coup, t'en as tellement pas besoin, sauf à des endroits où, franchement, des fois, tout d'un coup, il t'ouvre la map. Et puis là, tu te débrouilles. Hein. C'est à toi de te jeter dedans. Alors du coup, tu ne sais pas comment te repérer dans la map. Mais c'était quelque chose d'assez frustrant où en fait, c'était vraiment un couloir. Quoi.
Ce qui est assez fou, je trouve, pour un God of War, justement, où c'est très immersif aussi comme univers. Il y a un travail sur les décors, sur le son, sur les espaces qui est très immersif. Et on a envie d'interagir avec les décors. Mais cette mini-map casse complètement l'immersion. Et on dirait qu'on répond à un cahier des charges. De points à remplir. Et c'est un peu même... on a envie de le faire pour découvrir le monde, mais au final, on ne découvre pas. Il n'y a aucune interaction directe.
Et en fait, tant qu'elle est là, tu la regardes. Enfin, moi, je n'arrive pas à ne pas regarder la minimap. Elle est là, donc évidemment que je suis un peu fatiguée. Enfin, voilà, non, mais je veux dire, moi, je voudrais juste qu'on enlève les minimaps, vraiment des jeux, enfin, qu'on trouve d'autres systèmes pour orienter, mais pas plus de minimap. Enfin, moi, bref. Et du coup, il faut qu'il y ait une minimap. C'est un des ingrédients pour la recette magique des triple A. Et aussi, bien sûr, des millions d'objets à looter, des millions d'objets à récupérer, que tu sais pas quoi en foutre, que tu gardes, que tu revends, que tu sais pas, peut-être un jour ça te servira, mais en même temps, et en fait, il y en a plein qui servent à rien. Voilà, bon, en gros, voilà, et aussi, bien sûr, pour la recette, le dernier ingrédient, c'est une durée de vie de l'histoire principale d'environ 100 heures au moins, voire 150 heures. Et la longévité du jeu en AAA est un argument de vente. C'est qu'ils disent « Ouais, nous, notre jeu, il est même plus. Il est à 170 heures. » Moi, ça m'angoisse quand j'entends ça. 170 heures, je sais que je vais les faire et que je vais pas arrêter avant d'avoir fini. Je me dis « Putain, déjà d'avance, j'ai 170 heures bouffées par ce jeu. » Bref. Donc, et c'est un argument de vente que je trouve un peu fou quand même de se dire notre jeu... Enfin, pourquoi, en fait pourquoi ?
Surtout que la majorité de ces 170 heures soi-disant magiques sont... des quêtes à répétition peu plates.
C'est un peu plate. Et des quêtes secondaires et des trucs que tu répètes et machin avec des persos pas intéressants qui mettent pour remplir. Il y a vraiment un truc que tu sens dans les AAA de remplissage. Les Assassin's Creed, moi je les ai tous faits. J'adore la licence, mais elle est abominable cette licence.
Enfin, tellement répétitif.
C'est hyper répétitif. Moi là, j'ai fait Assassin's Creed le dernier Shadow là. J'en pouvais plus à la fin. J'avais envie de vomir. Enfin, vraiment, je les refaisais. Mais fallait que je finisse le jeu. Enfin, bon. C'est des obligations que les studios se mettent pour Voilà, parce qu'ils pensent que c'est la recette idéale du jeu qui va se vendre et être rentable. Ils ne voient pas les choses autrement, ils se disent que c'est trop une prise de risque de faire autrement.
Maëvy s'en parlera un peu dans son interview et elle parle notamment c'est les sections marketing qui ont un poids très conséquent chez les AAA.
Mmh. Exactement.
On verra plus tard.
Justement, on verra plus tard, c'est intéressant, oui. Ça va se compléter, je pense, avec cette chronique. Et du coup, les jeux se ressemblent de plus en plus. On reconnaît les mécaniques, c'est toujours les mêmes, les histoires ne sont pas dingues. Et du coup, moi, je trouve que les jeux AAA aujourd'hui manquent d'âme. Il n'y a pas d'âme. Vraiment, tu sens qu'il n'y a pas de truc derrière, que c'est juste des recettes et que tu sens qu'il n'y a pas une ou deux. Enfin, que ce n'est pas l'idée d'une personne, mais c'est 2000 personnes qui sont mises ensemble et qui ont jeté des ingrédients dans la même marmite, quoi, en gros. Alors que Clair Obscur, du coup, n'a aucun ingrédient de cette recette miracle. Ce n'est pas un monde ouvert, c'est un monde couloir. Mais quand même avec des moments où tu vas explorer un peu des endroits, etc. Mais c'est un couloir en fait, hein, Clair Obscur.
Ouais, mais tu peux monter sur des, tu peux sauter sur des trucs pour un peu voir d'autres vues.
Voilà.
Il y a des endroits qui te mènent à des endroits où en fait c'est juste pour la vue. Tu vois,
c'est ça.
Genre, et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt fun.
C'est plutôt fun. Mais c'est quand même un monde couloir, tu vois. T'as,
oui.
T'as des endroits où tu peux aller un peu différent, mais c'est un point A, un point B, quoi.
Mais je trouve que t'as moins la sensation. Enfin, je disais God of War, mais parce que moi, c'est ce qui m'avait choqué.
Oui.
Quoi. Genre, vraiment, pour le coup, t'as un truc et puis tu peux monter nulle part.
Oui,
tu peux monter. T'as une petite falaise comme ça, tu peux pas monter.
Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, le système de tour par tour, du coup, c'est une prise de risque, encore une fois, hein, c'est pas non plus dans la recette miracle. Il n'y a pas de loot ou d'objets inutiles. Il y a des loots, mais à chaque fois, c'est des trucs qui sont utiles, c'est des trucs importants, intéressants, et tu te trimbales pas un million de trucs sans comprendre ce que c'est. T'as trois différents types de loot et ils sont utiles à chaque fois. T'as pas de tableau de quête, t'as pas de milliards de quêtes secondaires, t'as des trucs un peu secondaires à faire, mais c'est pas dans une liste avec. Enfin voilà, c'est des trucs à découvrir si tu veux, en gros. Et t'as pas de minimap. C'est-à-dire que quand t'es dans un monde, c'est tout. T'as pas d'indication de où tu vas, machin, juste t'avances. Ça, c'est super. Et la durée de l'histoire principale, c'est 30 heures.
Oh.
Ça, c'est super aussi, 30 heures. C'est génial. J'ai un enfant. je préfère.
Il a besoin de toi.
Il a besoin de moi. Clair Obscur, c'est aussi un record de vente et de notes dans le monde du jeu vidéo. Là, il est sorti il y a un mois et demi, deux mois, je sais plus. Il a plus de 3 millions de ventes déjà. Alors que, en même temps de sa sortie, il y a un autre jeu énorme qui est sorti en même temps, c'est Oblivion remasterisé. Ils sont un peu sortis, un peu en cachette comme ça, pouf, on sort. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils sortent face à un gros jeu comme ça que tout le monde a voulu acheter, ils font quand même plus de 3 millions de ventes, ce qui est absolument du jamais vu.
C'est énorme.
C'est le jeu le mieux noté de l'histoire du jeu vidéo. 3,7 wow. sur 10 dans le monde entier, je rappelle. L'équipe a déjà été appelée par Hollywood pour qu'il l'adapte en film.
Waouh,
déjà.
Et la BO a été écoutée plus de 18 millions de fois sur les plateformes de streaming musical.
Normal.
Voilà. Pour dire, mais normal parce que c'est sublime. D'ailleurs, le compositeur de la BO qui s'appelle Lorient Testar a été trouvé par l'équipe sur SoundCloud. C'est vraiment des trucs de forum un peu obscurs où ils l'ont trouvé un peu au hasard comme ça.
C'est génial.
C'est génial. Bon, tout ça pour moi, ça signifie clairement d'un ras-le-bol des joueuses concernant les triple A. Ça signifie d'un truc de, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est un jeu qui a une âme. C'est-à-dire que Clair Obscur, la différence, c'est qu'ils ont une volonté de base. Il y avait une idée d'un jeu avec un concept, avec ils avaient quelque chose, quoi. Ils avaient une envie de construire quelque chose qui se tient, qui a une cohérence. Ils sont allés jusqu'au bout du concept. Et du coup, ça, c'est une œuvre artistique qui se tient de A à Z. Et c'est pour ça que ça plaît, en fait. Les AAA ont tendance à oublier que c'est aussi juste une œuvre artistique, un jeu. C'est pas qu'une recette. C'est ce qui parle aux gens, c'est que pour le coup, les gens qui ont créé ce jeu-là, ils avaient une volonté et ils sont passionnés de jeux vidéo et ça se sent aussi. Juste pour rappeler qui l'a fait, donc ça a été créé par la boîte Sandfall Interactive. C'est une boîte de 30 personnes qui sont en France. Et il y a eu aussi une petite équipe de 8 personnes en Corée qui ont aidé pour quelques trucs, je ne sais plus ce que c'était, mais en gros, sur des trucs que l'équipe française n'arrivait pas à faire. Mais globalement, c'est assez peu quand même comme équipe pour un jeu de cette ampleur-là. C'est quand même une petite équipe. Et sachez qu'ils sont 4 dans l'équipe à être des anciens d'Ubisoft, dont le directeur artistique qui est à l'initiative du projet, qui s'appelle Guillaume Labroche. C'est assez ironique, même si, voilà... Donc Ubisoft, je rappelle, c'est les Assassin's Creed, c'est les triple A.
Far Cry, et c'est, du coup, c'est ironique, mais il est parti.
Oui.
Cette personne est partie de
Exactement.
Ubisoft.
Alors, c'est très ironique, surtout que... Là, ils ont sorti un Assassin's Creed récemment, un énorme, avec une pub énorme, ils ont fait... Voilà. Clair Obscur a plus de ventes que Assassin's Creed Shadow.
Le plus gros chef
de l'histoire. Alors, d'ailleurs, je précise juste, Guillaume Labroche, il a rien contre Ubisoft. Hein. Il dit qu'il a passé des super années à Ubisoft, etc. Mais nous, de l'extérieur, on peut que voir l'ironie du truc, de se dire le gars,
Ubisoft
est parti.
Est là, est en procès.
Oui.
Ça y est, le procès de Ubisoft a commencé. Hein.
Exactement. À part les quatre anciens d'Ubisoft, tout le reste de l'équipe, c'est que des juniors. Ils n'ont pas d'expérience dans l'industrie. C'est leur premier jeu pour plus de 80% de l'équipe. Pour dire, vraiment, c'est juste en gros. Ils ont tous été passionnés par le projet, ils sont allés à fond sur le projet, il y en avait même qui n'avaient jamais joué à un jeu vidéo. Ils se sont juste mis à fond là-dedans, ils ont trop aimé, c'est pour ça que ça a marché en fait. En plus de ça, ils parlent de, dans leur équipe, il y avait une grande liberté pour tout le monde, et aussi avec l'éditeur, qui s'appelle Kepler Interactive, où en gros c'est un groupement de différents studios indépendants qui se sont mis ensemble, et qui sont vraiment dans le truc de la cohérence du jeu, enfin le jeu pour le jeu, pas le jeu pour la vente, le jeu parce qu'on y croit et parce qu'on aime le jeu quoi, en gros. Et donc ils sentaient qu'avec l'éditeur aussi il y avait une grande flexibilité, et... Ils avaient la même vision avec l'éditeur. Et il y a aussi le fait qu'avec une petite équipe, ils avaient plus de flexibilité, les décisions étaient plus rapides. Il y a un côté beaucoup... En fait, boîte à l'échelle humaine, quoi. En gros, boîte où on peut parler entre nous, où il y a un truc de... On discute, on débat, prise de décision. Enfin, voilà, ils racontent... Moi, j'ai vu des interviews, du coup, des personnes de la boîte qui disent, en gros, c'était assez flexible. Et là où, en fait, un jeu comme ça, il aurait pris 30 ans à faire chez Ubisoft... Non, j'exagère, ils avaient dit 20 ans. Ça aurait pris 20 ans chez Ubisoft, là, ils l'ont fait en, je crois, 4 ans. Ouais. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et aussi, je voulais rajouter, par rapport à l'équipe, en plus, ils parlent, pour beaucoup en tout cas, parce que j'ai vu, après j'ai pas vu toute l'équipe qui a été interviewée, mais ils disent qu'il n'y avait pas eu de crunch. Qu'est-ce que
c'est
le crunch ?
C'est ce que j'allais demander.
Mmh. Voilà, alors ils disent qu'il n'y a pas eu de crunch. Le crunch, c'est un concept qui est souvent associé à l'industrie du jeu vidéo, ou en tout cas vidéoludique. C'est en gros pour désigner les périodes de travail très intenses qui sont généralement avant la sortie du jeu ou avant des deadlines hyper importantes. Et en gros, c'est des moments où il y a exploitation des salariés, en fait. C'est des moments où les gens sont en burn-out ou en tout cas...
Ou en tout cas, on se dit pour qui, de toute façon, est dans, dans un milieu professionnel créatif, on sait très bien qu'au moment, de la deadline, il va y avoir beaucoup plus de boulot donné et parfois volontairement. Et où on dit, ah bah là, je vais plus compter mes heures parce que là, il faut finir à telle date. Donc le crunch, c'est compris comme étant une période, il faut vraiment qu'on termine, tout le monde est un peu stressé, etc. Le problème, ce qui s'est posé, c'est que maintenant, en termes d'économie, le crunch est compris dans l'économie du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on compte sur les burn-out, on compte sur le fait de ne pas payer les heures supplémentaires, on compte sur les gens qui ne vont pas rentrer chez eux et donc vont pas... c'est-à-dire les gens ont des familles, quoi. Hein. D'ailleurs, à la fin de Baldur's Gate du générique, il y a un énorme texte de remerciement pour parler avec des noms de gens, des familles, des personnes qui vont travailler sur le jeu pour dire merci à vous d'avoir été là, d'avoir été présent, parce que c'est grâce à vous si le jeu a pu se faire aussi, parce que vous étiez là au moment où, par exemple, je ne pouvais pas m'occuper du bébé, machin qui était à la maison s'occupait du bébé. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est pensé, qui maintenant, dans le jeu vidéo, en termes d'économie, effectivement, est devenu la norme,
alors que c'est pas normal du tout, ça respecte pas du tout les droits du travail, c'est hyper dangereux pour les salariés.
Et qu'on ne demande pas aux salariés s'ils ont envie de cruncher, quoi.
Bien sûr, c'est fou quand même, cette histoire de crunch. Et du coup, pour le coup, j'ai pas vu tout le monde, évidemment, peut-être qu'il y en a certains qui disent qu'il y a eu du crunch. En tout cas, la plupart des trucs que j'ai vus, ils disent plutôt non. Moi j'ai écouté pas mal d'interviews de Guillaume Labroche, un peu le chef. Il dit ce qu'ils me disent, mais après c'est que plutôt c'était assez flexible, et qu'à chaque fois quand on était à une deadline et que c'était trop juste, l'éditeur a été compréhensif, on a réussi à repousser la deadline, où ça s'est plutôt passé de manière saine, beaucoup plus que pour les triple A, en tout cas de ce qu'on connaît, quoi. Donc c'est très très ironique pour toutes les raisons du monde, et en plus le jeu est à 45€, et ça montre à quel point, en plus, les jeux à 80€, on sait à quel point la marge est énorme aussi pour les chefs, pour les dirigeants, et à quel point c'est aberrant. Donc J'ai quand même noté une conclusion, je vous la lis. Arrêtez les AA, les triple A, logique capitaliste à la merde qui tue la créativité et qui exploite leurs salariés jusqu'au burn-out.
Oui, bravo.
Voilà, c'est ça la conclusion. Et en plus, c'est ironique, d'autant plus qu'en même temps, il y a la sortie de la Switch 2.
Ah, oui, elle est sortie de la Switch 2, Alex ?
Arrête.
Non, je ne savais pas, comment le sais-tu ? Mais parce qu'on est au courant des choses dans le jeu vidéo, tout simplement. Mais...
Bon, alors, je suis plus gros lion cli que la Terre est connue. J'avais précommandé la Switch 2, d'accord ? Mais pour autant, je suis très heureux de la posséder, mais je déconseille de l'acheter. Je suis Yankee absolu. Mais ne l'achetez pas, c'est terrible la Switch 2, elle coûte 500 euros pour peu de performance par rapport à... Enfin vraiment, ça sert à rien.
Pour les capacités d'une PS4 portable.
Oui, c'est nul.
Pour acheter n'achetez une licence Nintendo merde, comme tu dis si bien, Alex.
Voilà, Nintendo à la merde, alors que d'autres trucs super bien.
Ouais. Achetez Clair Obscur Expedition 33, voilà, si vous voulez essayer le jeu vidéo pour la première fois.
Vous pourrez s'acheter combien de Nintendo Switch 2 combien de clair obscur on pourrait s'offrir avec une Nintendo Switch.
Tellement.
Beaucoup.
Et juste, moi, je voulais finir sur un truc de... J'espère, en fait, que ces genres de jeux-là, ou pas que lui, évidemment, mais qui vont faire changer un peu l'industrie, qui vont faire comprendre aussi qu'il y a un truc de... On a une démarche artistique en faisant un jeu, on veut une proposition, on n'est pas... Les grosses boîtes... Arrêtez de faire la même recette, en fait, arrêtez de faire les... Voilà, peut-être l'avenir, du coup, des jeux, c'est peut-être de faire des plus petits jeux.
Ou de faire des gros jeux, mais qui ont demandé du temps, à qui on a laissé le temps, par exemple Baldur's Gate. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une continuité assez belle sur les années. Sur les années où en fait on a Baldur's Gate avec du coup le CEO, je me rappelle plus son nom, qui nous explique que quand même c'est désastreux ce qui est en train de se passer dans le milieu professionnel du jeu vidéo. Moi, je le vois tous les jours parce que je passe ma vie sur LinkedIn parce que je cherche du travail. Et il se trouve que je suis pas mal de gens qui sont dans le jeu vidéo et tous les jours, en fait, il y a des personnes qui perdent leur emploi après avoir travaillé 4-5 ans sur un jeu et puis pouf, on les licencie parce que ça coûte moins cher de les licencier et de réembaucher des gens derrière qui vont être tout nouveaux, etc. Mais du coup, on se retrouve avec des jeux qui sont quand même plutôt déséquilibrés parce que c'est des personnes qui sont encore en train, pas forcément le fait d'apprendre, ça fait que t'es moins bon. C'est qu'en fait, en termes de créer une cohésion d'équipe qui permet en fait de mener à un beau résultat, bah en fait, ça demande du temps, ça demande le fait d'apprendre à travailler ensemble, ça demande de la confiance et de pas juste penser le rendement en fait.
C'est ça. Rendement chiffré, je pense qu'il faudrait juste faire des plus petites équipes, enfin vraiment des double A ou des jeux indés. Je pense que c'est sur quoi on devrait aller, quoi.
Mais ça a un impact aussi sur la force de proposition, comme tu dis. Enfin, juste d'expérience avec Adri, d'y avoir joué 4 heures, moi j'ai quand même été vachement surpris.
Clair Obscur, du coup.
Ouais, Clair Obscur. Ultra épaté par la puissance de la mise en scène et quand même les 3-4 premières heures où tu ne comprends rien à l'univers où tu es quand même, tu comprends pas ce qui se passe et pourtant petit à petit t'arrives vers des émotions qui te saisissent et dès le premier gommage
tu pleures la première heure, ouais.
Alors que tu ne connais pas les personnages, tu sais pas vraiment ce qui se passe et pourtant il y a une puissance dans l'écriture et la mise en scène et qui est clairement là, quoi.
Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été appelés par Hollywood, parce que pour moi le scénario c'est ça qui me parle le plus.
Et en plus du scénario, tu disais la musique.
La musique incroyable, magnifique.
Est-ce que c'est pas parfait, le moment parfait pour écouter un morceau ?
Merci pour cette transition. Petit morceau de la musique la plus courte de Clair Obscur.
c'était le track Alicia, c'est comme ça qu'il s'appelle
C'est ça.
Des compositrices de la musique de Clair Obscur Expédition 33, c'est trop beau.
Oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a une histoire aussi derrière la BO qui est trop.
Tu voulais raconter, tu rajoutes un petit truc sur l'écriture de Clair-Obscur avant qu'on enchaîne.
Oui, je voulais juste rajouter, mais justement aussi par rapport à la musique. En fait, tout le jeu, du coup, bon, il y a des rebondissements, des bouleversements. Et en fait, c'est plein. J'ai envie de le refaire, pas tout de suite. Voilà, mais j'ai envie d'attendre un peu et de le refaire parce qu'en fait, il y a une deuxième lecture. En fait, tu peux revoir tous les dialogues différemment, tu peux tout comprendre différemment, enfin voilà, tu peux tout recomprendre. Et dans la musique, il y a plein d'indices qui sont cachés. Mm-hmm. Ils ont inventé une langue pour, à des moments, dire des choses sans trop spoiler. Il y a des moments où il y a des petits indices, et en fait, quand tu sais les choses, quand tu réécoutes, tu comprends plein de choses. Enfin voilà, c'est très beau aussi à ce niveau-là. La musique est magnifique, elle est très bien écrite aussi. Donc voilà.
Trop bien. Et oui, et dans ces studios concrets, que ce soit les AA, les AAA ou les jeux indés dont tu parlais tout à l'heure, on ne fait pas que créer, on lutte aussi. Et on lutte d'ailleurs depuis 2017 dans ce secteur-là, parce qu'il y a le STJV qui s'est créé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le syndicat des travailleuses du jeu vidéo. Et il a été créé à peu près en rebond de la loi travail de Macron de cette époque-là. Et en fait, en effet, c'est un secteur, comment dire, il y a plein de choses, il y a plein de luttes à mettre en place, et tu l'as aussi très bien dit, Myriam, c'est qu'il y a des licenciements abusifs constamment, le crunch, enfin, plein de pratiques comme ça qui font que c'est un secteur un peu essentiel pour la lutte. Et j'ai eu la grande chance d'interviewer Mavis, qui, elle, travaille dans la technique audiovisuelle pour des événements e-sport. Et du coup, elle m'a parlé du STJV. Je lui ai posé quelques questions, et puis vous aussi d'ailleurs, vous lui avez posé quelques questions. Les auditeuristes de Radio Galère, vous allez pouvoir en profiter vous aussi. Et en fait, le STJV, pour vous dire à qui c'est destiné, je la cite, c'est destiné à toute personne dont la force de travail est au profit du secteur vidéoludique. Donc en fait, c'est un éventail extrêmement large de métiers, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, enfin voilà, de la traduction au codage, en passant par la création, enfin l'artistique, il y a vraiment plein de choses, et puis même la technique audiovisuelle, comme le métier que fait Mavis, c'est des choses où on pense pas forcément, mais ça fait partie de ce spectre-là. Et ma première question à Mavis du STJV, c'était lui demander un peu si elle pouvait nous faire un bilan aujourd'hui, en 2025, des luttes, en juin 2025, un bilan des luttes et puis aussi des avancées dans le secteur vidéoludique avec le STJV.
Nos dernières luttes, bah, en fait, là, on a un peu bouclé notre gros sujet de l'année 2025, qui a été ce qu'on a appelé la GG25, donc la grève générale 2025. Ça a été vraiment notre pierre angulaire de l'année, et ça a eu les répercussions et les retombées qu'on espérait. Ça a été la première grève générale du jeu vidéo dans l'ensemble, pas uniquement en France, mais aussi la première grève qu'on peut qualifier d'internationale du jeu vidéo, puisque de par l'internationalisation de certains studios, c'est-à-dire, pour en citer un exemple, Ubisoft, qui ont des studios qui sont à la fois en France, en Espagne, au Canada ou aux USA. Y a des camarades qui ont rejoint le mouvement de grève aussi sans être en France métropolitaine. C'est une grève qui a
rassemblé.
Rassemblé, ouais, j'essaie de trouver un meilleur mot, mais rassemblé, c'est bien. À peu près 20% de l'industrie du jeu vidéo française. Ce qui est assez énorme.
Wow.
C'est un mouvement qui, ouais, on a eu un peu la même réaction aussi quand on a pu faire un petit peu les décomptes, même si ça reste toujours des estimations, mais évidemment, mais on essaye d'être les plus précises et précis possible. Ça, une décision de lancer cette grève générale, elle a été prise lors de notre assemblée générale en 2024, et c'est-à-dire, bah, c'est à peu près la même période que maintenant, mais en 2024, donc en juin-juillet 2024. Et on a commencé l'organisation en fin d'année, décembre, même quasiment janvier. Donc, c'est-à-dire que la grève, elle a eu lieu le 16 février de cette année. Donc en gros, on s'est accordé 3-4 mois de préparation, et qui est à la fois est énorme et très peu. On a eu la chance que ça n'ait pas fuité, et du coup, ça soit resté une grève surprise jusqu'à la conférence de presse qu'on a faite pour l'annoncer. Et ça a été plutôt une belle preuve du fonctionnement très horizontal de notre syndicat. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais chez nous, on fonctionne d'un point de vue par commission, qui ont différents rôles, et de manière nationale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de groupes uniquement présents dans une entreprise et qui s'autogèrent entre eux. Bien évidemment qu'ils ont aussi leurs problématiques et tout ça, mais c'est-à-dire que tout reste aussi rassemblé d'un point de vue national. Et au final, ça a été une belle preuve de ce mode de fonctionnement qui fonctionne vraiment bien et qui nous a vachement avantagé à pouvoir à la fois se monopoliser dans toutes les grandes villes de France, et que ce soit pour la préparation ou même pour le jour J, puisque par exemple à Lyon, on a fait un truc un peu particulier, c'est-à-dire que plutôt que de faire comme c'est classiquement fait pour les grèves, où chaque studio, chaque entreprise, je pourrais dire, a ses grévistes qui vont faire leur piquet et ou pas devant leur lieu de travail, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à Lyon, on avait un peu ce problème du... Il y a énormément de studios. Et on se retrouvait avec parfois 3-4 personnes par studio, ou de 3 à 10 personnes par studio qui étaient syndiquées. Ce qui aurait pu faire un piquet de 3-10 personnes devant l'entrée du studio et être moins impressionnant pour les patrons et les collègues. Du coup, ce qu'on avait décidé, c'était d'organiser une sorte de manif rando où en fait, on s'est tous rassemblés à un point de départ. On était à peu près entre 100 et 200. Et on a marché dans toute la ville, à travers toute la journée, et on faisait devant les studios qu'on avait définis un piquet de 1 heure à chaque fois. Et ça était vachement plus impressionnant pour les directions que... Enfin, on sait que ça les a plus affectés, quoi. Voilà.
J'imagine. Et alors, quand tu parlais de retombées que vous attendiez, que vous avez eues, si j'ai bien compris, gain de cause, est-ce que tu peux me dire quelles sont justement ces demandes, ces requêtes que vous aviez faites au studio?
Ouais, bien sûr. Déjà, la principale, la première revendication qu'on avait, c'était de sauvegarder, parce qu'en fait, on est toujours dans une période de licenciement assez massif dans l'industrie. Et ça, c'est pas tant désempli que ça depuis. C'est toujours, chaque semaine qui passe, on entend des nouvelles histoires de studios qui licencient en masse. Donc c'était un peu notre revendication principale, qui était de sauvegarder les emplois et responsabiliser les patrons et patronnes au maximum, parce que il y a énormément de boîtes et de marketing dans des boîtes qui savaient pertinemment que la bulle Covid était une bulle en termes de chiffre d'affaires et de croissance, mais en fait ils veulent se l'approprier comme étant une réelle croissance, et que la chute à la suite de cette bulle, en fait, c'est une perte. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça mieux, mais dans leur idée, il fallait continuer sur cette ligne de productivité qui était le résultat de cet, entre guillemets, incident de productivité du Covid. Et pour eux, s'il y a moins de productivité, c'est anormal, il aurait fallu continuer au-delà de ça, alors que là, c'est juste un retour à la normale, en fait. D'autres revendications, c'était les transparences sur les finances des entreprises et les partages des bénéfices. C'est un petit calcul que j'avais fait, c'était qu'en 2023, on considérait que dans l'industrie de jeux vidéo, c'était à peu près 6 milliards de bénéfices. Si on s'imagine un salaire médian à 3 000 euros par mois, et en imaginant qu'un salaire médian de 3 000 euros par mois, ça coûte environ 10 000 euros par mois à la boîte, et en prenant l'estimation la plus large possible du nombre de travailleuses de l'industrie, on arrive à un coût d'emploi d'à peu près 2,6 milliards. Alors certes, il y a d'autres coûts qui existent dans les productions, les lieux et tout ça, mais ça fait quand même un écart de 3,4 milliards d'euros qu'on aimerait bien savoir où est-ce qu'il se trouve. D'autres revendications, c'était aussi de réorganiser les productions et la réduction du temps de travail. On sait que les semaines de 4 jours fonctionnent, que le crunch, c'est juste plus envisageable. Ça... Pardon ?
J'imaginais que c'est plutôt contre-productif, peut-être, le crunch aussi, des périodes
tout
aussi...
Fait, ça permet de rendre un produit à une date limitée, mais il y a bien d'autres méthodes, notamment le fait de savoir estimer un projet et du coup lui donner le temps nécessaire, contrairement à ce que font la plupart des agences marketing, c'est-à-dire du groupe marketing de certains studios qui ne vont pas écouter, et ça arrive pas sur le point, ils n'écoutent pas leurs travailleuses et estiment que ça peut être fait en 6 mois, alors que c'est un projet qui aurait dû prendre 2 ans, et du coup implique nécessairement du crunch pour arriver au terme, et même finir en retard malgré tout, mais d'arriver au plus court terme possible. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le crunch, c'est la pratique assez courante dans le jeu vidéo de faire rentrer le maximum de travail dans un temps défini le plus petit possible, c'est-à-dire avec des soirs où on ne rentre même pas chez soi du travail, on dort au bureau et on enchaîne un maximum d'heures de travail possible pour pouvoir finir le plus vite possible. Et du coup, ce que j'allais dire, c'était, qui était en lien avec cette dernière revendication, qui était une participation directe des travailleuses aux décisions et aux choix des entreprises, parce que les décisions marketing et industrielles prises par la direction, elles sont quasiment presque de l'auto-sabotage. Et c'est toujours, et ça malheureusement n'est pas le cas uniquement dans le jeu vidéo, mais ça répond toujours à une course à la croissance par n'importe quelle manière que ce soit. Et bah, malheureusement, les travailleuses, dans toutes ces prises de décision, elles ont aujourd'hui quasiment aucun poids. Quand on apprend des nouveaux contrats, quand on apprend des nouveaux projets ou ce genre de choses et les choix qui sont faits autour, bah, ça retombe sur les personnes qui travaillent et ils n'en ont pris aucune décision sur l'organisation de cette méthode de travail. Donc, voilà.
D'accord. Et donc, toutes ces revendications, de la transparence jusqu'à la, comment dire, sécurisation de l'emploi, du coup, ça a abouti à une victoire plutôt complète, alors ? Quasiment.
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ce qu'on a vu, c'est que...
Je ne vais pas dire de bêtises, du coup, là, je vais faire juste pour me le mettre devant les yeux, mais c'était à Dontnod où il y avait des... si je dis pas de bêtises, des grosses phases de licenciement qui ont été défendues par le STJV et par nos avocats. Et on n'a pas pu malheureusement sauver tous les emplois qui étaient sous le coup de ces plans de licenciement économique, mais... Bah, au final, sur 69 départs prévus, il y a eu un seul départ forcé et voilà. Ouais. C'est un peu un résultat de la grève, ouais.
Et justement, ce que vous voulez savoir, Alex, donc un des membres de l'équipe, c'est quels sont les plus grands obstacles dans la lutte comme ça syndicaliste que vous rencontrez dans le milieu du jeu vidéo. Voilà, c'est un peu là.
C'est une question qui est, mine de rien, très pertinente parce que ce n'est pas une industrie qui fonctionne comme toutes les autres. Alors, bon, il y a énormément d'industries qui diraient la même chose. Chaque corps de métier a ses propres spécificités. Mais en fait, la première, c'est que c'est une industrie qui est très jeune, relativement parlant par rapport à d'autres secteurs. Et le problème des industries jeunes, c'est le manque d'historique qu'il peut y avoir, notamment dans la défense des travailleuses et du code du travail au sein de ce milieu-là. C'est aussi cette sorte de création de liens factices entre la direction et les employés, un peu d'un univers, un peu comme si c'était une grande famille, ces sortes de faux liens de famille entre direction et employés, de sorte où on n'a pas l'impression que nos patrons sont nos patrons, et du coup, bah, les gens, ils n'osent pas trop non plus. Ça crée cette impression que si on se bat contre notre patron, on se bat aussi contre quelqu'un de notre famille, entre guillemets, et du coup, les gens, ils n'osent pas forcément. C'est aussi, mine de rien, un milieu qui est très entrepreneurial et qui est propice à l'avènement de plein de micro-studios ou de micro-boîtes qui sont gérées par des personnes qui ont parfois absolument aucune idée de la gestion d'entreprise, qui ont juste un gros portefeuille. Et ce qui fait qu'en plus d'avoir des liens de subordination et de pouvoir vis-à-vis juste de l'argent, ils n'ont aussi aucune idée ni de la loi ni de comment faire fonctionner une entreprise. Et on se retrouve avec certains patrons et patronnes qui, parfois, même dans le milieu indépendant, peuvent causer plus de mal que des très gros CEO qui, pour le coup, pourraient se permettre d'être hors la loi juste par le pognon. Mais par connaissance des faits et des équipes, restent un minima au moins au courant. Il y a aussi, c'est une industrie qui a besoin d'un éventail de spécificités techniques très très larges et de corps de métier très très différents qui puissent passer par des milieux très artistiques comme du développement, comme de la traduction. Et de ça découle aussi un très grand éventail de types de contrats. Tout le monde n'est pas salarié. Il y a énormément de freelance dans le milieu du jeu vidéo. Et pas forcément par volonté. C'est-à-dire que j'ai plus les chiffres exactement devant moi, mais sur l'ensemble des personnes qui sont freelance, il y en a très peu qui le sont par volonté et qui, au final, se retrouvent plus là parce qu'on leur a fait une, entre guillemets, fausse promesse de « non, mais mets-toi un petit peu en freelance, après on te proposera un CDI » ou on leur a fait croire que c'était mieux ou parce que, bah, tout simplement, par exemple pour la traduction ou pour certains travaux audio, les entreprises n'embauchent pas pour ça. Elles n'emploient que des freelance, quitte à transformer ça en salaire déguisé, c'est-à-dire que bah, la personne qui va faire la traduction du studio, elle va travailler exclusivement pour ce studio-là, mais rester freelance, qui est illégal en France d'ailleurs. Donc tout ça, ça fait que bah, c'est parfois un peu difficile de les gens, parce que, alors je dis ça, j'ai un contre-argument après qui va venir, mais bah, on a c'est un peu à la fois isolationniste, on a peur de se mettre en danger contre les patrons, on a aussi une industrie qui, mine de rien, a un énorme gap de salaire entre les moins bien payés et les mieux payés au sein sur des postes identiques, ce qui fait que on a aussi bah, cette envie, cette volonté de se protéger individuellement, et on a peur, je pense, avec cette fausse esprit de famille, de se mettre, si on se met à dos, bah, on perd notre réputation et on perd notre travail et c'est fini. Le contre-argument que j'aimerais citer, c'est que le STJV, sur nos estimations, c'est à peu près entre 10 et 15% de la masse salariale du jeu vidéo français qui est syndiquée.
Okay.
Donc c'est quand même assez fort comme taux de syndicalisation. Et c'est en constante croissance. Je pense que, bah, mine de rien, le fait que les casses du code du travail du jeu vidéo soient autant médiatisées d'une certaine manière, parce que c'est une industrie qui est très connectée à l'Internet, au jeu vidéo, bah, je pense que ça aussi incite un peu plus les gens à s'en rendre compte, prendre conscience et du coup profiter des outils syndicaux.
Merci beaucoup pour ta réponse. Et tu parlais du syndicalisme, enfin, du jeu vidéo comme étant une industrie plutôt jeune. Est-ce que c'est aussi pour ça que le syndicalisme est arrivé plutôt tardivement et aussi très jeune, à ton avis ?
Je pense que c'est deux choses. C'est un peu ça, et même un deux tiers de ça, on va dire, parce que... Bah, je pense que ce qui aide la survie du syndicalisme dans les autres industries, c'est, comme je disais, l'historique du fait que des syndicats représentent déjà certains corps de métier et industries, et du coup, par historique, continuent de faire ça. Et un truc qui est important à noter, c'est que le syndicalisme en France, il est en chute libre depuis les années 60 et dans tous les milieux. Et du coup, pour des industries qui sont nées après ça, quand ce déclin a commencé à avoir lieu, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'en voir de nouveau fleurir, et surtout bah, de fleurir de nouveaux syndicats, pas d'avoir des anciennes confédérations qui s'approprient, et à tort ou à raison, hein, mais un secteur d'entreprise. Et le fait est que l'industrie du jeu vidéo, elle n'intéressait pas vraiment les confédérations syndicalistes actuelles. Donc en fait, jusqu'à pas si longtemps que ça, bah jusqu'à 2017 et le CJV, hein, la manière de se syndiquer quand on travaillait dans le jeu vidéo, c'était de se syndiquer auprès des branches de l'informatique des grandes confédérations syndicales, et qui n'étaient pas forcément au fait des spécificités du jeu vidéo. Donc c'est aussi ça la naissance, une des naissances du STJV, c'était bah, le besoin d'être représenté par soi-même et en tant que connaissant, en ayant connaissance des spécificités propres aux jeux vidéo.
Merci beaucoup pour le temps que tu nous offres, hein, c'est précieux, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu voulais dire quelque chose peut-être pour conclure ?
Bon, j'ai pas d'idée comme ça, enfin, j'ai plusieurs idées, mais je sais pas à quel point je peux être extrême gauchiste ou pas, donc...
Vraiment,
okay, bon, bah, on connaît la chanson, 13-12 à cab. Hein. Et brûlez vos patrons, et mangez les riches, voilà.
Voilà, c'était l'interview de Mavis du syndicat des travailleuses du jeu vidéo, que je remercie, qu'on remercie encore chaleureusement.
Oui, merci, franchement, conclusion. Trop bien.
Et voilà, oui, bon, ça confirme un peu tout ce qu'on disait aussi autour des conditions de travail dans le monde du jeu vidéo, qui pratique encore des choses assez terribles.
Oui.
Mais heureusement que le STJV est là pour faire bouger les choses, pour commencer à faire bouger les choses et continuer à les faire bouger encore.
J'ai l'impression que les consommateuristes de jeux vidéo aussi veulent faire changer les choses un petit peu. Enfin, qu'il y a un truc de soutien. Enfin, pas tout le monde, mais qu'il y a quand même des mouvements assez conscients de tout ça. Voilà. C'est plus les grands méchants, c'est les patrons, j'ai l'impression. Mais bref,
oui, tout à fait. Et puis, il y a d'autres syndicats qui se montent. J'en avais parlé dans une chronique là précédemment, ou même aux États-Unis, au Canada. Moi, j'ai une amie qui est montée un syndicat au Québec, à Montréal. Donc oui, ça bouge vraiment à travers le monde, quoi.
Et oui, et d'ailleurs, une de tes questions que tu voulais poser, Myriam, qui n'apparaît pas dans l'interview, c'était est-ce qu'il y a une coordination internationaliste entre pays ? Et cette réponse, vous pourrez, si vous êtes intéressé de la voir, vous pourrez la lire dans un mini-dossier qu'on est en train de préparer avec Alex dans le journal CQFD, voilà, qui est à Marseille, qui est distribué à Marseille. Et oui, en effet, il y a une coordination, Maïvis l'a dit, et il y a même, d'ailleurs, je crois qu'elle part là ou la semaine prochaine à Londres pour une réunion de plusieurs syndicats internationaux du jeu vidéo à Londres.
Trop bien.
Ouais, donc il y a une vraie communication entre toutes ces équipes voilà. Elles arrivent même à se retrouver dans des événements en physique, quoi. C'est super.
Trop bien, c'est ce qu'il faut.
Et voilà, on arrive à peu près tout doucement à la fin de l'émission, il semblerait.
On a encore quelques minutes.
On a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on ferait ? On donne des recommandations de choses ?
Ah ouais, les recommandations, c'est vrai qu'il y a ça. On a aussi après une petite interview à passer, c'est
ça ? Ah mais
ça
oui, mais
oui, il y a
sûr.
L'interview, peut-être la capsule des gens qui jouent.
La capsule, voilà.
Une capsule
que tu peux expliquer les gens qui jouent, c'est toi qui l'as...
Tout à fait. Donc en fait, qui en plus va très bien rebondir avec tout ce dont on a parlé, parce que vous allez voir que Soraya, du coup, qui a gentiment voulu me répondre et qui est donc une super joueuse et qui va nous faire une masterclass à la question notamment en quoi le jeu vidéo est un médium politique, comme vous allez voir. Donc effectivement, des gens qui jouent, j'ai envie de faire des portraits en fait de personnes dans des très micro-capsules comme ça de 5 minutes. 5-6 minutes apparemment, puisque là ça va être 5 minutes 41 secondes. donc avec 4 questions qui reviendraient constamment pour un peu montrer la diversité en fait des profils des joueurs et joueuses qui s'adonnent aux jeux vidéo, et notamment via des profils plutôt personnes LGBTQIA+, racisées, enfin voilà, aller vraiment chercher dans les marges justement, et qu'en fait non, il n'y a pas que des joueurs blancs, cis, hétéros, et au travers notamment du jeu, c'est-à-dire finalement des jeux soit doudou, soit vraiment qui nous plaisent, et vraiment dans un regard très subjectif et émotionnel en fait aux jeux vidéo, mais néanmoins où il y a toujours un regard critique. Et donc là, sans plus attendre, on va lancer donc des gens qui jouent avec Soraya, qui donc est doctorante en sociologie des mouvements sociaux. Elle est streameuse depuis 7 ans et elle a une newsletter au format fanzine musique et horreur qui s'appelle Horreur et Ligne de Basse, que je vous recommande chaudement. Alors pour le moment, la newsletter est en pause, mais il y avait en tout cas des chouettes musiques que j'ai découvertes dedans. Et donc sans plus attendre, on va entendre les réponses à mes questions.
Trop bien.
Un premier souvenir jeu vidéo ?
Pour le souvenir marquant d'un jeu, j'ai décidé de parler de Franbo. Donc, parce que j'ai évidemment eu full de souvenirs fondateurs dans l'enfance, mais je pense que c'est important de montrer qu'on peut toujours être marqué adulte par certaines œuvres. Pour le dire rapidement, Franbo, c'est un point-and-click indépendant et macabre. On incarne une petite fille avec de gros problèmes psychiatriques, qui est très traumatisée, qui a des visions horrifiques et graphiques, et elle est à la recherche de son petit chat noir. Et c'est ça notre aventure avec elle. Tout au long du jeu, elle est obligée de prendre des médicaments qui lui révèle un deuxième monde qui est particulièrement glaçant. Et moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est sa fin. Alors désolée, je vais spoiler un peu, mais en fait, pour une œuvre pareille, qui est aussi sombre et triste, c'est une fin qui est belle, c'est une fin qui est joyeuse et qui fonctionne quasiment comme principe politique, quoi. Où Franbo dit « Between guilt and fear, I choose happiness. » Entre la culpabilité et la peur, moi je choisis la joie. Et j'ai cru que j'allais pleurer devant la résolution de ce jeu, en fait, quand j'ai vu ça.
Tu utilises quoi comme bécane ?
Alors, la bécane que j'utilise, bon, j'ai été une joueuse, j'ai été une Nintendo Zouze hyper longtemps. Ensuite, j'ai joué pas mal à la PlayStation. Puis, je pense qu'à la fin de la GameCube et tout, j'ai commencé vraiment à avoir un PC. J'en suis jamais revenue. Donc voilà, je suis vraiment joueuse PC avec, à l'occasion, je joue sur borne en salle d'arcade.
En dehors de l'évidence que tout est politique, notamment tout art est politique, qu'est-ce qui fait que, pour toi, le jeu vidéo est un médium politique ?
Du coup, le jeu vidéo est un médium politique pour moi se joue sur deux niveaux. Déjà parce que c'est une industrie qui obéit à des contraintes de relations de production et de productivité insérées dans des marchés et leurs impératifs. Donc, de fait, quand on a des travailleurs, des travailleuses qui sont par exemple des développeurs, qui produisent un produit fini duquel on s'empare, on est déjà dans le royaume du politique et du commun. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mettre de côté, dans la mesure où ça structure le prix de nos jeux, mais aussi comment sont payées les travailleuses, quelles sont leurs conditions de travail et d'exploitation, et ce qu'ils ont ou non comme liberté artistique et créative. Sans parler de toute la sphère compétitive de jeux en ligne, qui sont aussi des véhicules politiques immensément forts. À retracer les mêmes dynamiques que dans les grands consortiums sportifs, les mêmes spécificités de contrats, les campagnes marketing et j'en passe. Donc ça s'insère dans notre monde social, qu'on joue ou non. Et pour une réponse un peu moins matérialiste chiante, du coup le JV, c'est politique parce qu'il fait de nous automatiquement des sujets. Donc c'est un médium qui est subjectivement de facto. On a le pouvoir d'agir, on a l'interaction. Et pour beaucoup de monde, moi y compris, ça a été une façon de s'évader de cadres violents, abusifs. On est dans l'imaginaire qui a toujours été politique en ce qu'il façonne des pluralités d'horizons et de possibilités, quoi. Et quand on voit un monde en ruine, ravagé par des catastrophes écologiques ou par la dévoration des grandes corporations, ça a du sens pour nous, quel que soit le contexte. Et on se retrouve acteur et actrice dans tout ça. Mais même sans trop s'éloigner dans la fantasy ou le fantastique, je pense à tous ces jeux qui nous apprennent. Moi, j'ai plus appris sur l'histoire du Japon à l'Eredo, par exemple, dans les jeux, qu'en cours d'histoire, quoi. Alors souvent, cette vitalité politique, on va la retrouver plus frappante dans les jeux indés, parce que ça recoupe à ce que j'ai dit au-dessus, quoi. Il y a plus de liberté. Donc un des premiers exemples, moi, qui me vient en tête, c'est Never Alone, où on joue une petite Inupiaq et son renard polaire dans un jeu de casse-tête. Et ça reprend le folklore de plein de contes autochtones qui sont insérés, comme le veut la tradition orale, dans le jeu. Et ça a été co-développé par des conteurs, des poètes Inuk, et de ce que j'ai vérifié, les devs et éditeurs du jeu sont les premiers à appartenir à des personnes venant de communautés autochtones. Donc cette ouverture au monde, cet apprentissage, ils ne peuvent qu'être politiques, pour moi. Et évidemment, un des plus gros arguments, c'est l'interaction avec les autres, quoi. Le jeu vidéo, c'est du lien social, c'est du partage. Et oui, c'est aussi parfois du harcèlement, de la violence, qui est une des facettes sombres du politique. Mais c'est aussi la collaboration quand on est, par exemple, dans du jeu compétitif multi et en équipe. Donc c'est très clair, pour moi, le jeu, c'est une forme d'art un peu total où tout peut arriver. La cinématographie, la musique, l'interactivité, les récits, la poésie, l'écriture, le lien social. Et être actrice dans de telles potentialités créatives, côte à côte avec les autres, pour être en lien avec le monde et créer des cadres communs, qu'est-ce que c'est sinon quelque chose de politique ?
Dernier mot pour un jeu ?
Un dernier mot sur un jeu. Donc moi j'ai été très marquée récemment par Before Your Eyes, qui dure 1h30. On est sur la barque du passeur et on revoit toute la vie du personnage qu'on incarne. La mécanique du jeu principal se base sur le fait de cligner des yeux. Donc il faut jouer avec une webcam. Et les devs indiquent au début que nos gueules, elles sont pas revendues à des tiers, et moi j'ai préféré les croire pour pas passer à côté de ce jeu qui est incroyable. Mais vraiment, en fait, ça offre un degré d'intimité qui est immense parce qu'on est physiquement en lien avec le jeu très concrètement. On veut garder les yeux ouverts et voir ce qui se passe. On cligne des yeux et on a pris 3 ans. Et toute notre vie est découpée comme ça, tous les temps forts. Et ce que j'en ai retiré aussi, c'est que c'est dur de garder les yeux ouverts quand on pleure, parce que c'est vraiment très émouvant. Et c'est la dernière expérience où je me suis dit je ne cesserai jamais, jamais, jamais de jouer à des jeux vidéo.
Et ben voilà, c'était
trop bien.
Ouais, c'était super. Hein. Ouais. Ouais. Quand elle m'a envoyé ses réponses, c'était genre, et ben voilà, ouais. Je veux dire, on a fait le tour de la question, tout va bien.
Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Elle pourrait aussi venir participer à l'émission.
C'est... Ouais, alors, elle est au Canada actuellement,
ah, oui.
Mais oui, j'aimerais bien lui proposer qu'elle nous enregistre une chronique sur un sujet de son choix, justement, qu'elle puisse nous envoyer ça, ouais. Parce que je trouve que c'est... hyper intéressant ce qu'elle pourrait raconter.
Ouais,
et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous, auditeurice de cette émission, de participer à l'émission, c'est ouvert. Vous pouvez nous écrire.
Tout à fait.
Vous pouvez nous écrire sur gamingpolitique@proton.me en nous proposant quelque chose, un jeu, une chronique, un débat. N'hésitez surtout pas à nous contacter.
Oui, ou sur l'Instagram aussi. Gaming et politique avec un esperluette.
Toujours ce mot, j'adore.
Oui, esperluette.
Et bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est la fin.
Merci,
oui.
Ouais.
Merci. Oui, merci beaucoup.
À dans un mois.
À dans un mois.
Sûrement.
Oui, je crois.
On espère.
A priori, ça ne s'arrête pas pendant l'été. Mais...
Allez, bisous.
Salut.
Bisous.
Pour la caisse, on trouvera des excuses. Qu'est-ce qui fait chaud après les degrés Celsius? Qu'est-ce de l'occasion, on ne peut pas baisser dessus? Qu'est-ce qui fait chaud après les degrés Celsius? Pour la caisse, on trouvera des excuses. De quoi? Pourquoi tu parles de nous? Avec tes verbes passés, prends tes couilles, vas-y, regarde-nous. Quand j'aime quelqu'un, j'éteins mes phares, du coup, je me méfie plus, je roule, les pneus en